sac à tout, mémoire d'un petit chien, Séverine. Extrait. Dédicace pour sac à tout. Je serais une ingrate, mon petit chien, si je dédiais à quelqu'un d'autre que toi, être non pas fictif, mais réel, couché en ce moment à mes pieds sur un pan de ma robe, ce récit de tes aventures que tu as inspiré, que je pourrais presque écrire, dicter. Il t'est dû, je n'en retiens que la forme et peut-être quelque arbitraire dans l'ordre ou le détail ou l'amplification des événements. Mais pour le reste, je suis bien certaine de n'avoir fait que traduire et enchaîner la plupart des incidents qui composent la vie des pauvres toutous comme toi, sans race et sans valeur. C'est ton vrai portrait qui figure en tête de ce petit volume. C'est ta vraie âme, saint Thomas d'Aquin vous en attribue une, ta vraie âme, malicieuse et sensible, enjouée et tendre, qui se reflète en ces pages, exactement. Parce que je ne suis qu'une femme, parce que tu n'es qu'un chien, parce qu'à des degrés différents, sur l'échelle sociale des êtres, nous représentons des espèces inférieures au sexe masculin, si pétries de perfection. Le sentiment de notre mutuelle minorité a créé entre nous plus de solidarité encore, une compréhension davantage parfaite. Je perçois presque ton langage et tu pénètres mes pensées. Je hausse l'épaule, tu lèves la patte devant, ce qui est suspect ou répugnant, et nous avons en commun l'amour des petites gens. Mes boutades, tu les supportes, philosophe et quelque peu gouailleur. Tu laisses le chien du braconnier, le camarade sans pâté, se faufiler dans la maison, finir ta soupe. Depuis le jour qu'on t'a découvert blotti chez moi, misérable et tremblant, sans que l'on pût jamais te reconnaître par où ni par qui tu y avais accédé, je ne t'ai donné après tout que l'hospitalité, le gîte et le couvert, avec quelques caresses autour. Toi, tu m'as donné tout ton être, passionnément. Les petites étoiles de tes yeux vifs, la grande flamme affectueuse de ton cœur minuscule, ta gaieté aux heures de tristesse, ta gravité attentive et silencieuse aux heures de travail. Et puis, quand j'ai failli mourir, je me rappelle, lors des réveils, de jour, de nuit, l'angoisse de tes prunelles, jamais closes, tendues vers mes yeux défaillants. Petit chien laid, petit chien vulgaire, petit chien de rue, sale roquet, qui est mon meilleur ami. Tout compte fait, c'est encore moi, ta débitrice. Et je paie, Séverine. Prologue. Le serment de sac à tout. Sur un tas de cailloux, Marquise agonisait. C'était une chienne de petite taille, vieille, très vieille, si vieille même qu'elle n'apparaissait plus que comme une ombre. Un tas de neige maculée par le dégel, quelques poignées de laine emmêlées et salies. Elle avait eu son temps, comme tout le monde, son heure où l'éclat tient lieu de beauté, où l'entrain, l'assurance inhérente au jeune âge font illusion aux autres et à soi-même. Or, ici, abandonnée de tous, laissée par ses maîtres, les patrons de cirque, comme un chiffon usé qu'on jette et qui va pourrir au fumier, le flanc haletant, la langue sèche, c'est à ce temps-là qu'elle songeait, au passé, à sa jeunesse. Pour fringante, elle l'avait été, et souple, et drôle, et fantaisiste donc. Les plus magnifiques spécimens de sa race, ceux qu'on prime dans les expositions, qu'on bichonne et qu'on parfume, avaient l'air ridicules et benêts au bout de leur laisse avec leurs grelots d'or et leurs cocardes de soie quand on les amenait pour la voir, elle. Enfant de la balle, fille de bohème, habillée d'oripeaux de 4 sous, mais sachant si bien les porter. Une dernière bouffée de vanité lui monta au cerveau. Il n'y a pas à dire, l'avedan a raison, j'avais la manière, soupira-t-elle. Et hélas, que c'était loin l'époque des tournées annoncées par de grandes affiches. Marquise, l'inimitable marquise est dans nos murs. Cachoucha, boléro, fandango, qu'on se le dise. Ah, le bruit enivrant des bravos et la fièvre d'orgueil quand les bouquets pleuvaient sur la scène, quand les parents, les enfants, leurs bonnes et messieurs les militaires criant « Encore, encore !» exigeaient qu'elle les revînt saluer. Depuis Fanny Hessler, on n'a pas vu ça, avait même dit un soir un très vieux monsieur. Puis les bons morceaux de sucre, les friands os de poulet à la rentrée dans la coulisse. Elle couchait sur l'édredon de la patronne, la mère la crêpe. Le père la frite, ils avaient été surnommés ainsi par le personnel à cause de leur goût immodéré pour la friture, et leur fils, le petit beignet, ne tarissait pas en éloge, en flatterie. Marquise, jolie marquise, chouchou à sa mémère, canard vert à son papa. As-tu chaud? As-tu froid? As-tu soif? Veux-tu rentrer? Veux-tu sortir? Cette bête-là est une vraie fortune. Une fortune, oui. Elle la leur avait gagnée. Si le père Lafrite n'avait pas eu, comme disaient les palefreniers, le gosier en pente, bu toutes les recettes au cabaret, si la mère Lacrêpe n'avait pas tant aimé les plats doux, les licheries confectionnées en cachette et absorbées toute seule, si le petit beignet, le dernier des garnements, celui-là, n'avait pas chipé des sous dans la caisse pour s'acheter des billes, des toupies et des cerfs-volants, il y aurait eu belle lurette qu'ils auraient possédé une bicoque à la campagne, avec un bout de jardin autour, où elle aurait fini sa vie, elle, marquise, tranquillement, dignement, ainsi qu'elle l'avait bien mérité. Elle avait tant travaillé, travaillé jusqu'à la fin, et parmi de si lourdes peines, depuis le jour où, glissant en scène, elle s'était démis la patte. Dès lors, c'en était fait de la gloire. Si Rata, le singe cuisinier, si la jolie clownesse, si Bacchanal, la chèvre savante, si la guenon banane et l'âne trotte-avoine, si les deux truies, si Dalise et Rosalinde et leur cavalier, son illustre époux, le chien jockey, si surtout son petit-fils, son cher petit sac à tout dont la pensée lui déchirait le cœur, n'avait pris sa peine en pitié, que son sort eût été encore plus misérable. Relégué, rebuté, nourri en dernier et avec les restes de tous, couchant sur des débris de litière, elle avait vite traversé toutes les étapes de la déchéance. Réduite d'abord à l'état de figurante, au dernier plan, à cause de sa boiterie, attachée sur l'estrade au grand soleil des journées entières, mangée par les mouches, harcelée par les badauds, elle avait fini affublée d'un chapeau à plumes, et à bavoler, un bibi, et d'une crinoline, paraître un objet de risée, grotesque et lamentable, celle dont on se moque, dont on fait déchirer la robe à coups de croc, qu'on se renvoie d'un bout à l'autre de l'arène à coups de pied, qu'on persécute et qu'on poursuit. Et dire qu'elle avait regretté cela. C'était du malheur, oui, mais c'était encore de l'art, fût-ce au dernier échelon. La piste, les torches d'acétylène, les clowns qui cabriolent, la musique qui fait rage, les chevaux qui piaffent, la danseuse en robe couleur d'aurore ou couleur de lune qui crève les cerceaux de papier. C'est qu'après, la pauvre marquise avait, tout à fait, été bannie du théâtre. Plus rien couvreuse, chargée de garder les nippes des camarades en scène, à la cantonade, loin du public. D'ailleurs, son accident avait marqué pour tous la fin de la chance. Peu à peu, le cirque, son matériel, sa troupe avaient diminué, diminué. On n'avait plus d'étoiles. Et bien loin de la plaindre, on la rendait volontiers responsable de la gêne survenue, de la ruine proche. Enfin, lorsque malade, à bout de force, son état de décrépitude était devenu trop évident, cela n'avait pas été long. « Jette-moi ça dehors, ça n'est plus bon à rien !» avait dit la mère la crêpe. « Pas trop tôt !» avait répondu le petit beignet. Et, happant marquise d'une poignée rude, il l'avait lancée hors de la voiture en marche, là où elle était demeurée, à demi brisée, si faible. Maintenant, la caravane s'éloignait. Adieu, le grand cheval blanc, éthique et bon, qui lui permettait de se réfugier entre ses pieds, dans la paille, et évitait de remuer pour ne point la blesser. Adieu, Rata et Banane, si pareils à des humains, mais tant meilleurs. Adieu, les autres. Adieu, surtout, son compagnon, le chien jockey, s'étant tué dans un steeple. Adieu, sac à tout. Dire qu'elle n'avait même pas pu l'embrasser avant la séparation, que depuis des mois on les tenait éloignés l'un de l'autre, lui très en faveur, intelligent, déluré, annonçant de grandes dispositions dramatiques, elle, si en disgrâce, si humiliée. Dire qu'effrayée de le voir s'engager dans la voie qui lui avait été si fatale, elle n'avait même pas pu l'avertir, l'adjurer de choisir une autre carrière, d'adopter un autre mode d'existence. À présent, loin d'elle, au bout d'une corde, le pauvret avait sans doute essayé de s'enfuir pour la rejoindre. À présent, loin d'elle, on entraînait sac à tout. Elle ne distinguait plus de lui, sur la route, qu'un flocon blanc qui disparaissait, là-bas, tout là-bas. Surexcitée par l'amour maternel, la pauvre marquise voulut se traîner encore dans cette direction, fit quelques pas, gagna un talus, y retomba évanouie. Elle rouvrit les yeux sous un souffle chaud. Sac à tout, sa laisse rompue, était là. « Oh, mon petit, c'est toi? C'est donc toi ?»« Oui. Qu'est-il arrivé ?»« Rien. Je vais mourir. Ne te récris pas, ne m'interroge pas. Écoute, tu es jeune. Tu ignores la vie. Mon expérience, ma tendresse souhaitent de t'épargner des douleurs. Je ne veux pas que tu passes, mon fils, par où j'ai passé. » Jure-moi de faire ce que je vais te demander. Mais, jure! Sac à tout, bien ému, étendit la patte droite, la patte de devant. Je le jure. Merci. Eh bien, renonce au mensonge de la gloire, à l'aberration qui m'a perdu. Dans l'adolescence, mon enfant, j'ai rencontré le bonheur et ne m'y suis pas tenue. Je désire que ce bonheur, dédaigné par ma folle ambition, toi, tu le retrouves. » Une défaillance l'interrompit. Sac à tout gémissait, lui léchant le museau. Elle fit effort, se redressa. « Écoute, mes minutes sont comptées. J'avais été accueillie dans une bonne maison pour nous autres, chez une femme, un écrivain, Séverine. » Rappelleras-tu ce nom-là ? Séverine, oui. Où est-ce ? À Paris. Je t'enjoins d'y aller, d'y fixer tes jours. J'obéirai, mais l'adresse, Paris doit être bien grand. C'est achève. C'est... La tête de Marquise s'allongea sur le sol. Son corps se raidit dans un spasme. Elle était morte. Les mémoires de Sakatou, chapitre 1er, où Sakatou cherche sa voie. Lorsque ma pauvre maman fut défunte, je demeurai bien triste et bien embarrassée. Tout d'abord, du mieux qu'il me fut possible, j'essayai de la mettre en terre. C'était du sol friable, très heureusement car je ne suis pas bien fort. De deux coups de langue, je fermai ses pauvres yeux qui avaient tant pleuré. Je la fis glisser doucement dans le trou que j'avais creusé, j'y rejetai le déblai, puis je ramenai dessus des feuilles, des branchettes, des petites pierres, afin que son dernier repos ne fût pas troublé. À peine avais-je fini que j'entendis au loin accourir quelqu'un, et une voix appelait « Sakatou ! Sakatou ! » J'avais été surnommée ainsi dès l'enfance en raison de l'appétit formidable et peu regardant dont la nature m'avait douée. Mais pour l'instant, le cœur et l'estomac serrés, je ne songeais guère aux mangeailles. Et je me blottis dans un buisson. Désemparée comme je l'étais par l'émotion, le chagrin, ce serment solennel qui brisait mes plus chères espérances, j'avais besoin de réfléchir. Le coureur se rapprochait. Il passa au galop. C'était cette horreur de petit beignet entre les mains de qui je m'étais échappé tout à l'heure. Sans doute on avait fait halte pour l'attendre alors qu'il se lançait à ma recherche. Je ne l'avais jamais goûté beaucoup, avec sa tête en poire, son nez en pied de marmite, ses yeux de guingois, sa voix de fossé, ses épaules en escabeau, l'une accédant à l'autre, ses genoux cagneux et... plus que tout, car les imperfections physiques ne sont rien quand l'âme est bonne, son esprit sournois, sa méchanceté innée. Cependant, personnellement, je n'avais jamais eu trop à m'en plaindre, mais ma pauvre maman en avait beaucoup souffert, et dans les circonstances présentes, sa vue me révoltait. Je demeurai quoi ? Je le laissais aller ? Je le laissais revenir, il se grattait la tête, parlant tout seul. « Où a-t-il pu passer, cet animal-là ? Le père va battre ses tapis sur mon dos, sûr !» Il retourna à pas lents, tirant la jambe, pas pressé de recevoir sa correction. Et longtemps encore, crainte d'un retour, je restais dans les broussailles immobiles, usant ma corde tout doucement. Après une souche rugueuse pour qu'on ne vît point que je m'étais évadée. Quand je me hasardais au dehors, il était plein midi et j'avais rudement faim. Il s'agissait, tout seul, sans maître, sans guide ni ressource, un, de ne pas retomber au pouvoir des gens du cirque, puisque telle était la volonté de maman, deux, de m'orienter sur Paris, trois, d'y découvrir cette Séverine, dont j'ignorais la demeure, par qui il m'était enjoint de me faire adopter, chez qui il m'était ordonné de vivre et de mourir. Ce n'était pas commode pour un jeune chien dépourvu d'expérience et d'instruction. On néglige de nous apprendre la géographie à nous autres. Et pour peu que le toutou soit folâtre, étourdi, il suit ses patrons sans discerner la route et il reste ignare. J'en étais là. Puis, la difficulté se doublait d'un risque. Mon signalement, sous peu, serait donné. La mère La Crêpe ne se résignerait pas facilement à me perdre. Je sentais encore la façon dont elle me tâtait les jarrets de temps à autre, clignant de l'œil de contentement et disant « Ça, c'est de l'or en barre. Avec lui, on se refera. » Je devais m'appeler Marquis sur les affiches, en souvenir des triomphes maternels. On m'avait même pris mesure d'un habit à basque, d'un gilet brodé. Mademoiselle Rose d'Avril, la clownesse, m'avait bordé d'argent un tricorne de feutre. Puis, avec de l'étoupe en dessous, des crins de Bataclan, le grand cheval blanc en dessus, confectionné un amour de perruque lié au bout par un nœud de ruban noir. J'aurais porté l'épée et jabot de dentelle, dansé la gavotte et le menuet. Ma mère avait du brio, brûlait les planches. Moi, j'avais de la grâce, une extrême distinction. Je pouvais être le bargui des chiens. Je dis cela aujourd'hui, que tous mes familiers, soit de l'art, soit de la politique, car vous supposez bien qu'en ce temps-là, chien de saltimbanque, en quête du chemin à suivre, une telle comparaison dépassait l'ordre de mes connaissances et de mes conceptions. La vérité, c'est que je souffrais profondément de devoir renoncer à l'avenir rêvé. J'avais la vocation. Sans regretter mon serment, je le déplorais. Heureux qu'il eût adouci les derniers moments de ma pauvre mère. Triste, ô combien, de devoir m'y conformer. Car je suis un honnête chien. On ne plaide pas chez nous, ni ne chicane, la parole suffit. J'avais donné la mienne, je la tiendrai. Et Séverine, cette Séverine, en voilà une qui aurait mieux fait de ne jamais connaître maman. Une femme qui écrivait, ça devait être une grande sèche toute noire, avec des airs d'homme manqué. Peut-être bien qu'elle fumait la pipe, comme la mère La Crêpe. Enfin. Tout en réfléchissant ainsi, j'avais marché, marché beaucoup, non sur la chaussée, où l'on pouvait me découvrir de loin, mais sur les bords, dans les fossés, derrière les haies. J'avais passé derrière des pays sans me montrer, mais le chemin parcouru devait être déjà long. Un village était devant moi, et en avant, une petite auberge, sentant bon la soupe. Peut-être y attraperais-je quelques reliefs. Peut-être y entendrais-je quelques utiles indications. Je me faufilais, inaperçu, dans le jardin, et pour écouter les buveurs, je m'assis sous une tonnelle. Quand, tout à coup, brutalement, des mains me saisirent. Chapitre 2. De quelle manière Sakatou perdit sa confiance en la presse. Je me sentis soulevée, manipulée, puis qu'on me liait après quelque chose de pesant, et soudain je retombais sur le sol entre deux marmitons de blancs vêtus qui riaient à pleine gorge. Non, oh, est-ce qu'on va se payer la tête du chef? Pour ça, faut que le chien bouge, hop! Et celui-là m'allongea un formidable coup de semelle. Je m'enfuis, un tintamarre sans nom. Quelque chose qui participait de la cloche et du tonnerre éclata derrière moi, m'escortant tout proche, galopant en croupe de ma frayeur. Ce bruit me rendait fou. Il m'avait attaché une casserole à la queue. Or, tandis que je tournais dans l'enclos, affolé, cherchant une issue, un gros homme en tablier et toc de cuisinier surgit comme une trombe du bâtiment, les manches retroussées, un grand coutelas à la main.
« Ma casserole ! Ma casserole !»
la vue du coutelas me donna des ailes. Je filais comme une flèche dans la campagne.
« Ma casserole ! Au voleur ! Au voleur ! Arrêtez-le !»
hurlait derrière moi l'aubergiste. Mais il était relativement âgé et j'étais jeune. Il était ventru et j'étais svelte. Enfin, j'avais 4 pattes et il n'en avait que 2. Je gagnais du terrain. Quant au gars de sauce, fauteur de cette déplorable plaisanterie, s'il frottait, c'était pour la frime et je distançais tôt la bande. Même une frénésie m'avait pris. Je ne pouvais plus m'arrêter. On eût dit que le tapage me poussait, me projetait en avant. Je traversais en cyclone des prés, des bois, des centres, des villages, et confusément je distinguais à la brume les mollets d'une grosse dame renversée par mon élan de bourrasque et les bras levés d'un épicier réveillant en sursaut sur le pas de sa porte et clamant des choses intelligibles. Je ne m'arrêtais qu'à perte d'haleine, très loin de là, sur la lisière d'un taillis où campaient des rétameurs. Quand ils m'aperçurent, ils se mirent à rire. « Tiens, un client ! Drôle de façon de nous envoyer l'ouvrage !» cria gaiement la femme. « Le fait est que l'objet est cabossé !» observa l'homme en coupant la corde qui me reliait à la casserole. « C'est tout de même du bon cuivre et qui nous tombe du ciel !» conclut la ménagère en fuissant l'instrument de mon supplice dans un grand sac de toile bise. Les enfants, 2 jumeaux, me caressaient. Tout ce monde avait de bonnes figures. J'étais moulue de fatigue. Ils me donnèrent un peu de leur soupe. Je passais la nuit avec eux. Au matin, j'entendis la commère, revenant du hameau d'à côté, la gazette en main qui disait à son mari « Dis donc, il y en a eu des histoires hier, décidément. Le pays n'est pas très sûr. » « Qu'est-ce que tu veux que ça fasse, Frosine, à des bohémiens comme nous ?»«
Oh, ce n'est pas des voleurs que j'ai peur, mais écoute !»
Notre région, tantôt, a été troublée par de graves événements. À la tombée de la nuit, dans la commune de Bien-Assise, Madame Petit-Minet, la veuve de notre regretté capitaine de gendarmerie, a été renversé par le passage d'un véhicule qui devait être un automobile emporté et son conducteur. La victime n'a eu aucun mal, mais quand même, de pareils faits ne sont-ils pas éminemment regrettables. Le responsable, d'ailleurs, ne tardera pas à être connu, un des témoins ayant pu, au ras du sol, distinguer une partie de son numéro, soit le 1 et le 0.
Regarde donc, on dirait que le chien étouffe.
Je le crois que j'étouffais de stupeur et de joie. Leur numéro 10 pardit, c'était ma queue et le rond de la casserole. Cependant, ma gaieté devenait tout à fait frénétique à ouïr le second récit. Attentat anarchiste. Concordamment à l'incident relaté ci-dessus, vers la même heure, mais alors sur le territoire de Rabajou-les-Prunelles, Monsieur Pézéra, épicier, adjoint au maire, réputé pour ses idées conservatrices, somnolait au seuil de son magasin lorsqu'un fracas épouvantable fit sursauter. Et il vit rouler à ses pieds, puis sur la chaussée, un cylindre de métal mal enveloppé de papier blanc. Monsieur Pézéra n'eut que le temps de se rejeter en arrière, tout au fond de sa boutique. Le projectile ne fit pas explosion, mais comme on ne l'a pas retrouvé, on suppose que des complices apostés dans les environs l'ont fait disparaître. La gendarmerie, le maire, le sous-préfet, le préfet ont été avisés. Déjà, de sérieuses mesures ont été prescrites, par dépêche, du ministère de l'Intérieur. Et les gens sans aveu n'ont qu'à bien se tenir.
Nous sommes innocents, mais si on s'en allait, proposa la femme.
« C'est toujours plus sûr, » répondit l'homme philosophiquement. Moi, j'étais incapable de donner signe de vie, tant il m'apparaissait comique d'être métamorphosé par la renommée. Soit la frayeur publique, tantôt en voiturette et tantôt en obus. Mais du coup, mon respect de la presse se trouvait amoindri. Tout ce qui était imprimé n'était donc pas exact ? Était-ce possible ?
je n'eus pas le loisir d'en méditer plus long. On leva le campement. Eux venaient de la banlieue de Paris, à l'encontre de mon chemin. On se sépara.
Seul le chien se souvient, seul le chien vous attend. Dommage qu'il vive si peu de temps. La paume et cette enclume où tout est dessiné, et l'étoile et la lune, et le cœur des marées, toutes les lignes tracées, drôle pour la solitude, ce ventre constellé, de manquer d'habitude. Seul le chien se souvient, seul le chien vous attend. Dommage qu'il vive si peu de temps. Type tordu, corps fiévreux, aux mains amples aux romances, promise aux contredanses, aux créneaux hasardeux, ils narguent des sirènes, leurs chanteurs des adieux, du feutre sur les yeux, plus tard quand ils reviennent. Seul le chien se souvient, seul le chien les attend. Dommage qu'ils vivent si peu de temps. C'est la dernière étoile que je vois s'allumer. C'est le dernier soupir que je m'entends pousser. Qu'on me porte, qu'on m'installe, qu'on me donne à chauffer une dernière salle que je vois défiler un à un ces visages pour qui j'aurais compté. Mais l'heure a beau tourner, au milieu de la salle, seul un chien me regarde. Seul le chien se souvient, seul le chien vous attend. Dommage qu'il vive si peu de temps.